Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Arrêt sur Image. Alors, les médias sont-ils perdus? Ou au contraire, savent-ils très bien ce qu'ils font? Pour certains, on sait. C8, CNews soutiennent officiellement le RN dans sa conquête du pouvoir. Personne n'est étonné. La direction du Figaro aussi a clarifié les choses. Ce sera l'union des droites, comprendre LR et RN. Union des droites, expression bien pratique d'ailleurs, pour faire disparaître l'extrême droite du champ lexical. Et au milieu du marasme, les chaînes d'infos plongent à pieds joints dans la stratégie du RN, se normaliser à l'excès et apparaître dans un retournement ahurissant, comme l'unique barrage au péril Front Populaire. Front Populaire qui a signé, à l'heure où on parle, un accord sur les circonscriptions et le programme. Le nini ou le déni, on en parle aujourd'hui avec notre invité Sylvain Bourmeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, producteur de radio, écrivain. Vous avez lancé en 2018 le journal en ligne AOC, analyse, opinion, critique, que vous dirigez toujours aujourd'hui. Et puis je le dis tout de suite, vous êtes fervent partisan de l'union de la gauche et de ce nouveau Front Populaire qu'on a vu naître cette semaine. Je voudrais qu'on commence tout de suite avec... un surgissement, on va dire, dans le débat dimanche soir après la dissolution de l'Assemblée nationale et le résultat des européennes, c'est les élus LFI, ce sont eux qui ont dit les premiers qu'il y avait un problème en France avec la médiatisation du RN.
Et maintenant, une dernière chose quand même, parce que moi je veux bien qu'ici maintenant, on verse des larmes sur le résultat du Rassemblement national, mais pardon, vous avez vous aussi, les médias, produit une campagne dans laquelle c'était un affrontement permanent entre les macronistes et l'extrême droite. Vous-même, France Télévisions, vous les avez invités à faire un débat en excluant l'ensemble des autres candidats. C'est la vérité de ce qui s'est passé dans cette campagne. Pendant toute cette campagne, le score de la France Insoumise a été annoncé entre 6 et 7% dans les sondages. Aujourd'hui, on est déjà à 9% dans les estimations, et vous verrez, je prends l'engagement devant vous, ça va aller plus haut. Donc à un moment, vous avez aussi une responsabilité dans la progression de l'extrême droite.
Franchement, 11-1 sur M. Bardella pendant cette campagne. Les médias aussi ont une énorme responsabilité dans ce qui s'est passé aujourd'hui.
On vous interroge sur votre programme politique, vos positions, et vous répondez soit les sondages, soit les médias.
Je suis navrée, mais il y a un système qui ne se remet absolument pas en cause et qui est pourtant aussi... à installer cette possibilité, cette banalisation. Là,
je suis désolé. Quand Jordan Bardella a trois fois plus de temps d'antenne que les autres candidats et autres têtes de liste des élections européennes au sein des médias, je suis désolé. Les médias font aussi le jeu du Rassemblement national. Non. Et enfin, mais bien sûr que si, c'est les chiffres de l'Arcom qui viennent de tomber. Trois fois plus de temps pour Jordan Bardella que pour les autres têtes de liste.
C'est en fonction des sondages.
Non, ce n'est pas en fonction des sondages. Il y a une règle d'équité.
Ils ont raison. Question simple et complexe.
En gros, ils ont raison. Après, il faut rentrer dans le détail et il faut essayer de comprendre les logiques à l'œuvre. Pourquoi le Front National a été traité de cette manière-là? Pourquoi on lui accorde autant d'attention? Je pense qu'il y a des raisons différentes selon les médias, selon les rédactions. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas le propre de cette campagne qui vient de se dérouler. C'est une très, très longue histoire, en fait. Je pense qu'on a besoin de revenir assez loin en arrière pour comprendre petit à petit comment le Front National, pour les journalistes politiques, pour les éditorialistes, est devenu un parti politique qu'on traite comme les autres partis politiques, ce qui n'était pas du tout une évidence il y a de ça 20 ans ou 25 ans, en fait.
Quand on dit aujourd'hui, le Front National est, bon, on l'a vu aux élections européennes, autour en gros de 30-34%, est-ce qu'on en est encore là? C'est-à-dire qu'on a l'impression que, de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Avec des tels scores, la médiatisation ne joue plus de rôle dans l'ascension qu'on dit irrésistible du Rassemblement National?
Je pense qu'il est certain que l'attention portée au Front National, le fait de le médiatiser très fortement, lui a davantage servi dans une phase de décollage ou d'accélération qu'aujourd'hui. Ça me semble une évidence. Néanmoins, c'est toujours... il faut faire attention, c'est-à-dire que à tomber dans aucun des deux travers. C'est-à-dire qu'on peut avoir trop rapidement tendance à considérer que les médias font l'élection, ou inversement, qu'ils n'ont aucun espèce d'impact. En fait, je pense qu'ils ont des impacts qui sont un peu plus compliqués, un peu plus sophistiqués que ce qu'on veut bien dire. Ils ne produisent pas nécessairement du vote comme ça. D'abord, le premier impact que les médias ont sur le débat politique, c'est un impact interne aux médias, en fait. Les médias sont très copieurs. Ils regardent ce que font les voisins. Et il y a des phénomènes de boule de neige qui se mettent en place. C'est-à-dire que le premier impact d'un média qui va accorder beaucoup d'attention au Rassemblement national va être que les autres vont avoir tendance à s'aligner sur... C'est ainsi que peu à peu, dans ces interactions entre journalistes, se construisent des cadres, des cadrages, des manières de poser la question, des manières de camper des personnages politiques, tout un tas de choses qui sont en deçà souvent du discours, en fait, et qui sont partagées, y compris par des gens qui ne partagent pas du tout les idées du Front National.
Vous pensez à qui ? Aux éditorialistes, par exemple ?
Notamment, mais pas seulement. Je pense aussi aux journalistes politiques en général. Bon, c'est pas, ça fait longtemps que je pense qu'on a un problème avec ce que j'appelle tout le temps, en mettant un hashtag, le journalisme politique à la française. Il y a d'autres manières de faire du journalisme politique. Il m'est arrivé de travailler un peu longuement sur le journalisme politique en Grande-Bretagne. Je peux vous assurer qu'on n'a pas affaire à la même chose.
Il est quoi ? Il est moins fasciné par le pouvoir, moins attiré par la lumière ?
Il est moins dans les jeux, dans la compétition entre les personnes. Il est beaucoup plus dans l'analyse des politiques publiques, par exemple. Il suffit de regarder les articles consacrés à l'analyse des politiques publiques. Ils sont beaucoup plus fréquents et on est moins dans la... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des articles sur des guéguerres intestines au parti. Ça existe aussi, mais pas dans les mêmes proportions, en fait. Il y a ce côté, mais je ne suis pas le premier à le dire, on le sait depuis longtemps, ce côté... juge de patinage artistique des journalistes politiques, et en particulier des éditorialistes, pour le coup, mais aussi des journalistes politiques. Je renvoie à l'excellent livre de Rachid Lahirèche sur la question, paru aux Arènes récemment, qui vend un peu la mèche sur son métier de journaliste politique. C'est passionnant, et ça permet de comprendre un certain nombre de choses qui sont produites par la proximité au quotidien, en fait. Et ça permet surtout de comprendre ce qui paraît bizarre pour des gens vus de l'extérieur, c'est comment des journalistes qui sont vraiment aux antipodes eux-mêmes, politiquement, idéologiquement, de ce type de parti, en viennent néanmoins, pour des raisons professionnelles qui sont un peu complexes, peut-être on va pouvoir y revenir, à faire des choses dont ils ne se rendent même pas compte et qui viennent servir, en fait, le Rassemblement national.
Justement, j'allais y venir, venons-y tout de suite, parce que j'allais vous demander, on sait que sociologiquement, les journalistes votent plutôt à gauche en France, même majoritairement, et c'est vrai qu'on a cette dichotomie de la production audiovisuelle versus ceux qui la produisent. Et comment on explique ça ? C'est-à-dire que comment on se retrouve avec une majorité de journalistes de gauche qui produisent, évidemment on ne va pas mettre tous les journalistes dans le même sac et toutes les rédactions et tous les journaux, bien sûr, mais qui produisent une médiatisation qui, parfois, se penche clairement à droite ou à l'extrême droite.
Alors, il y a des lectures un peu simplistes de ça. Il y a des gens qui vont vous dire, en fait, c'est parce que tous les médias appartiennent à des milliardaires qui sont de droite et donc qui donnent des ordres aux rédactions. Enfin, je dirais, il suffit de regarder comment ça fonctionne dans un journal pour savoir que ça marche pas comme ça. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des pressions, qu'il ne peut pas y avoir de censure, que des journalistes ne sont pas licenciés. On en a malheureusement de plus en plus d'exemples. Et la question de la propriété du capital des médias est une question importante. Néanmoins, si on ne cherche à comprendre les choses qu'à travers ce facteur-là, on s'interdit, à mon sens, de comprendre l'essentiel. Et l'essentiel vient de ce qu'on pourrait appeler une idéologie professionnelle, en fait. Une idéologie professionnelle qu'on apprend à la fois dans les écoles de journalisme, mais aussi sur le tas, sur le terrain, petit à petit, et qui consiste... elle a beaucoup de caractéristiques, mais une des choses les plus saillantes, à mon avis, c'est cette croyance qu'il y a qu'on pourrait produire la vérité, ou l'objectivité.
Ou la neutralité.
En prenant deux opinions, en fait, qu'on frotte l'une contre l'autre. Deux opinions antagonistes, deux opinions contradictoires, comme on frotte deux silex pour faire du feu. De manière rituelle, les journalistes produisent de l'objectivité en juxtaposant des opinions. Alors ça prend des formes plus ou moins caricaturales. Dans les chaînes d'information continue, c'est ce qu'ils appellent le pif-paf, et il y en a partout, tout le temps. Et ils ont le sentiment du devoir accompli, les journalistes qui font ce travail. Ils ont le sentiment vraiment que pour eux, c'est pour ça que tous ces débats autour de qu'est-ce que l'info, est-ce qu'une opinion est une info, me font sourire, parce que en fait, il y a l'idée que l'info, ce serait produit par la confrontation des opinions. En fait, les opinions peuvent être des informations, peuvent véhiculer des informations, mais pas forcément. Et disons que c'est un rapport un peu rudimentaire, je vais utiliser un gros mot, à ce que dans les sciences humaines et sociales, on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire les moyens qu'on se donne de comprendre les choses. En sciences sociales, on on a tendance à parler d'objectivation, de mode d'objectivation. C'est-à-dire qu'on va utiliser différents types de modes d'objectivation. On peut utiliser une enquête par sondage, on peut utiliser une observation ethnographique, on peut utiliser des entretiens en long cours. Et quand on fait ce genre de travail, on n'est pas dupe. On sait bien qu'on ne produit pas la vérité. On a recours à des modes d'objectivation qui vont donner à voir des facettes, des aspects des choses. On ne produit pas de manière objective du savoir. On cherche à se mettre dans un processus d'objectivation, ce qui est plus modeste et en même temps plus sérieux. Et les journalistes croient vraiment dur comme fer, enfin souvent, à la possibilité d'être objectif c'est le fameux contradictoire. Il faut toujours, alors dès lors qu'il y a du contradictoire, tout va bien. Comme si, en fait, sur une question, il ne pouvait pas y avoir 50 opinions et pas juste 2 ou pas juste 4. 2, c'est quand on a un scrutin à un seul tour. 4, c'est quand on a 2 tours. Mais enfin, franchement, n'importe quelle question peut être éclairée de multiples manières. Et c'est ce pluralisme-là qui manque, en fait, terriblement dans les médias, la recherche de sons de cloche, en quelque sorte, différents. Donc, du coup, tout ce qui polarise, au fond, va retenir l'attention des journalistes. Et ça, c'est une prime, en quelque sorte, à un parti comme le Rassemblement national, parce que c'est spectaculaire que ça fait du buzz, des opinions qui peuvent révulser, choquer, ou au contraire, emballer d'autres personnes. Et donc, on va mettre en face, on va mettre les fascistes et les antifascistes en face, et on va faire le match. Bon. Je veux dire, on ne va pas refaire l'histoire, vous rappeler de l'histoire des gants de boxe, de tapis avec Le Pen. Enfin, c'est très vieux tout ça. Mais bizarrement, ça a continué comme si on ne retenait aucune espèce de leçon sur la manière qu'il y a de traiter ce parti. Et moi, j'ai connu une époque comme journaliste où, dans un certain nombre de rédactions de journaux de gauche, il y avait une espèce de cordon sanitaire journalistique autour de ce parti qui était considéré comme différent des autres partis et donc qui ne devait pas faire le même type de traitement. Il en reste des éléments de cette manière de le considérer, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver des entretiens avec les chefs de ces partis dans un certain nombre de journaux. Mais le traitement, en revanche, au quotidien, il a eu tendance à s'être normalisé. D'ailleurs, normalisation, c'est un mot sur lequel il faudra qu'on revienne aussi.
Revenons-y tout de suite, parce qu'on va parler d'union des droites. Ce que je le disais en introduction de cette émission, c'est l'élément de langage préféré au RN et chez Éric Zemmour pour justifier une alliance avec LR. Et en fait, cet élément de langage s'est répandu un peu partout.
Les électeurs des Républicains, Éric Ciotti veut faire appel à eux pour imposer l'union des droites.
Moi, ça fait 25 ans que je défends la rupture de ce qu'on appelle le cordon sanitaire et que je veux sortir du piège de Mitterrand l'union pour rassembler
droites.
Les droites.
C'est l'union des droites.
Exactement.
Marion Maréchal, elle considère, Éric Zemmour, que le problème pour l'union des droites, que vous appelez en effet de vos voeux, dont vous rêvez depuis 25 ans, le problème c'est vous.
Mais c'est aussi une volte-face pour le Rassemblement national, qui, contrairement à Éric Zemmour, n'a jamais adhéré au projet d'une union des droites.
Un autre Éric Zemmour, qui rêve depuis toujours de cette union des droites.
Éric Ciotti, au fond, il traduit ce que beaucoup aussi veulent à droite, hein, c'est l'union des droites. Il faut voir que cette union des droites, ça fait des années qu'on en parle.
Alors l'union des droites, c'est devenu l'élément de langage parfait pour désigner l'alliance LR-RN. Alors l'alliance LR-RN n'est pas encore faite parce que c'est compliqué. Mais ça dit pas grand-chose finalement. C'est-à-dire qu'on met dans le même sac automatiquement le RN et la droite dite républicaine, les Républicains. Et surtout, on fait disparaître le terme extrême droite.
Oui, on ferait bien de lire l'avis du Conseil d'État en la matière, qui avait décidé que le ministère de l'Intérieur devait distinguer l'extrême droite de la droite. Et qui, dans le même temps, d'ailleurs, avait considéré que la France insoumise n'était pas de l'extrême-gauche. Donc je dis ça pour ceux qui tentent de mettre en équivalence, en fait, ce qui se passe à gauche et à droite. Pourquoi ce parti s'appelle Les Républicains ? Précisément pour mettre en avant le fait qu'il se distingue de l'extrême-droite et qu'il y a un cordon sanitaire entre les deux. Or, l'ironie de l'histoire, c'est qu'on a un président d'un parti qui s'appelle Les Républicains qui, tout seul, enfin pas tout seul, mais disons,
quasi tout seul,
décrète que désormais ce parti peut faire alliance avec le Rassemblement national. Donc oui, ce qui s'est passé cette semaine de ce point de vue-là est très important. C'est une première à bien des égards, même si il faut quand même relativiser les choses. C'est-à-dire que on ne peut pas non plus considérer que jusqu'à présent, non seulement à droite, mais plus largement dans l'espace politique, le Front National aurait été soigneusement isolé derrière un cordon sanitaire. J'aurais quand même rappelé que le gouvernement, les gouvernements d'Emmanuel Macron ont voté des lois avec ce parti à l'Assemblée nationale, et pas n'importe quelle loi, en particulier la loi immigration, donc sur un thème que le Rassemblement national et avant le Front national mettent en priorité numéro un.
– Loi qui n'aurait pas eu de majorité sans les voix du Rassemblement national, je le rappelle.
– Sachant l'utilisation qui est faite du mot immigration, parce que par ce parti, en fait, immigration, c'est un proxy pour le Rassemblement national, c'est un mot qui permet de tenir un discours raciste sans en avoir l'air, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a des tas de preuves de ça, que ce qui pose problème à un certain nombre des électeurs du Rassemblement national, comme des leaders, même à l'ensemble des électeurs probablement, ou presque, en tous les cas des leaders certainement, du Front National, ce qui leur pose problème, c'est pas tellement les immigrés, c'est les gens qu'ils appellent les immigrés, et qui en général ont la peau noire, ou sont arabes, voilà. Et sauf que comme ils peuvent pas le dire comme ça, parce que c'est un délit, ils le disent autrement et ils utilisent le mot immigration pour cela.
Alors justement, immigration, union des droites, normalisation, dédiabolisation, tous ces proxys, comme vous les appelez, on les a intégrés, nous, journalistes. C'est-à-dire que dédiabolisation, on l'a oublié, mais à la base, ça vient de Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui théorise elle-même la dédiabolisation et c'est devenu aujourd'hui un élément journalistique d'analyse du RN tout à fait admis. Et...
C'est très important de comprendre que ce mot de dédiabolisation, le mot de normalisation, tout ça, ça fait l'objet d'une stratégie du Front National, puis du Rassemblement National. Une stratégie voulue par Marine Le Pen pour se démarquer de son père et qu'elle a réussi à imposer, à vendre en fait aux médias. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a tendance à toujours taper sur les éditorialistes, je ne dis pas qu'ils sont toujours formidables, mais ce n'est pas nécessairement eux qui ont acheté ce mot. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, dans le journal Le Monde, d'une chose qui m'avait frappé. Le même jour, il y avait un article sur la normalisation du Front National, un article d'information, et puis il y avait l'éditorial sur le même sujet. L'article était titré avec le mot « normalisation » sans guillemets. L'éditorial, lui, avait pris soin de mettre des guillemets. Parce que, comme si, au fond, cet article-là était un article qui donnait l'occasion de réfléchir, de prendre un peu de recul sur ce à quoi on avait affaire, alors que l'article d'info, il reprenait les éléments de langage sans se poser de questions. Ça, c'est un autre problème du journalisme politique, enfin du journalisme en général, c'est que trop souvent, il est pas très réflexif, en fait.
Et sur cette fameuse union des droites ? Et la disparition du qualificatif d'extrême droite, qui disparaît d'ailleurs de plus en plus. Hein, dans, on a lu beaucoup d'articles.
Vous savez, là aussi, c'est un combat. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, j'étais à l'époque journaliste à Libération, quand Marine Le Pen a menacé les journalistes, les journaux, de leur faire un procès s'ils utilisaient le qualificatif extrême droite à propos du Front National. Notre réaction, ça avait été à Libération de faire la une, c'était un numéro du samedi, je m'en rappelle, en prenant une photo plein pot de Marine Le Pen, tout sourire, avec un tampon sur la une, 100% extrême droite. C'était très important de marquer, de redire les choses très, très, très clairement. Je pense que là, il y a des batailles qui sont des batailles lexicales, linguistiques, qui ont été perdues progressivement par beaucoup de journaux, en fait, par beaucoup de médias, peu à peu. Et ce qui fait qu'on s'est trouvé à commenter l'actualité politique avec un vocabulaire qui n'était pas adéquat, qui ne correspondait plus à la réalité. C'est comme ça que la catégorie d'extrême droite a été peu à peu effacée, au moins en partie effacée. Et je pense qu'il faut être très vigilant à propos des mots qu'on emploie.
Et c'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui à Bruno Le Maire, par exemple, qui qualifie le programme du RN de marxiste. Là, on perd tout sens de la réalité et de la raison. Alors, Bruno Le Maire est un politique, évidemment, hein, il ne le fait pas par hasard, mais...
Ben, ça participe de ce que Philippe Corcuff a pu appeler le confusionnisme politique, en fait. À force d'avoir des stratégies de triangulation dans tous les sens, et ça, le premier à avoir vraiment mis ça en œuvre, c'est Nicolas Sarkozy, mais ça n'a eu de cesse depuis, et Emmanuel Macron n'a pas été le dernier à abonder dans ce sens. Ça encourage à utiliser les mots n'importe comment, l'objectif visé étant de brouiller les repères, précisément, parce qu'un certain nombre d'acteurs politiques peuvent estimer qu'ils ont à gagner de ce brouillage, qu'ils vont récupérer des voix d'électeurs perdus, en fait, qui ne comprennent plus rien. Dans le même ordre d'idées, le brouillage du clivage droite-gauche par Emmanuel Macron procède de la même stratégie, en fait.
Alors, je le disais en introduction, certains médias commencent à se positionner très clairement. C'est le cas du Figaro. Le directeur des rédactions, Alexis Brézé, a pris la parole sur Europe 1.
C'est le retour de la droite la plus bête du monde, Alexis.
Bah, si c'est pas ça, Dimitri, ça y ressemble furieusement. Alors c'est vrai, l'obstination d'Éric Ciotti à rester président du parti dont il n'a consulté aucune instance avant de conclure son accord et dont les dirigeants sont tous sans exception contre lui, a quelque chose de déraisonnable. Mais franchement, le déchaînement des anti-Ciotti est invraisemblable. Cette brochette de caciques en rang serré, tous ces barons qui, disons-le, n'ont pas toujours enchaîné les triomphes. Et Laurent Wauquiez, qui soudain retrouve la voix. Et Bruno Retailleau. Et même François-Xavier Bellamy. Mais que va-t-il faire dans cette galère? On voudrait persuader les derniers électeurs LR de ne plus jamais voter pour ce parti. On ne s'y prendrait pas autrement.
Alors justement, les électeurs des Républicains, Éric Ciotti veut faire appel à eux pour imposer l'union des droites. Mais sait-on exactement ce que ces électeurs en pensent, Alexis?
Pour personne, et ça qui est important, pour personne, ce n'est une guerre de religion. C'est un débat, on n'est pas d'accord sur tout, et notamment pas en matière économique, mais un débat qui ne mérite pas ses anathèmes et ses excommunications.
Mais à droite, il y a le fameux cordon sanitaire, mis en place par Jacques Chirac au début des années 90.
Oui, certes, et par Alain Juppé. Vous avez raison, Dimitri. Mais depuis cette époque, qu'est-ce qui s'est passé? Le FN puis le RN n'ont jamais cessé de progresser, sauf en 2007 grâce à Nicolas Sarkozy. Et l'UMP puis LR n'ont jamais cessé de reculer. Et aujourd'hui, on en arrive à ce résultat mirifique que les droites, sans les macronistes, hein, pèsent 45% dans ce pays et que dans ce bloc, LR c'est au plus 7%. Si aux législatives, les choses se passent comme aux européennes, deux candidats LR, j'ai bien dit deux sur 577, peuvent, sans accord avec le RN, être présents au second tour. Ceux qui, aujourd'hui, l'accablent se diront peut-être que le choix intéressé d'Éric Ciotti n'était pas si mauvais.
Il y a une chose, toute la séquence est intéressante, mais il y a une chose particulièrement intéressante, il dit 45% pour les droites, il inclut Reconquête, Alexis Brézé. C'est-à-dire que même Reconquête, aujourd'hui, est considérée comme faisant partie de la droite républicaine traditionnelle. Quoi.
Et c'est mirifique.
Et c'est mirifique.
C'est pas étonnant que Reconquête soit à la limite ce type de droite intellectuelle est incontestablement plus proche de Reconquête que du Rassemblement National. Parce que précisément, le Rassemblement National, ils peuvent le trouver marxiste, comme dirait Bruno Le Maire. Et donc Reconquête, on voit bien comment une certaine extrême droite, comment il y a une division du travail entre Zemmour et Marine Le Pen de ce point de vue-là, et comment un certain type d'intellectuel de droite et de droite extrême ont rejoint les rangs de Zemmour à la dernière élection présidentielle. Donc je ne suis pas surpris en fait que Reconquête fasse partie de ce grand ensemble.
Et pour le Figaro, parce que le Figaro qui est quand même... Alors, on va mentionner Sophie Dravinel, qui est journaliste au Figaro et qui a réagi sur Twitter à cette annonce qui était horrifiée et qui rappelait que le Figaro était anti... plutôt était Dreyfusard, j'allais dire l'inverse, qui rappelait cette histoire-là en disant mais le Figaro a pris la défense de Dreyfus à l'époque contre toute la presse de droite. Que devient le Figaro, en gros?
Enfin, le Figaro, a pris la défense de Dreyfus, c'était il y a bien longtemps. Entre-temps, il lui arrivait beaucoup de choses, d'être entre les mains de M. Hersant, puis de M. Dassault, etc. Enfin, bon, c'est pas très surprenant, malgré tout. Faut pas perdre de vue que cette chronique, elle se fait sur une radio qui appartient à M. Bolloré. On a appris, par ailleurs, que Éric Ciotti, avant... de se prononcer publiquement, avait pris conseil avait en tous les cas dialogué avec M. Bolloré. Donc tout ça fait partie d'une stratégie, qui est à la fois politique et médiatique, de conquête ou de reconquête, pour prendre le mot d'Éric Zemmour, de bataille culturelle et politique, au fond, menée à travers des médias, avec des personnalités. Je pense que la bataille passe à l'intérieur du Figaro comme elle passe à l'intérieur du parti Les Républicains.
On a souvent entendu la formule ces derniers jours, plutôt Hitler que le Front Populaire, en parlant des chefs d'entreprise, des classes dirigeantes. Mais est-ce que c'est pas une formule un peu érodée parce que Alexis Brézé, jamais il aurait choisi le Front Populaire, a priori. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens n'attendaient que ça, de toute façon. Pas d'avoir le choix, mais que l'ascension du RN, c'est... C'est ce qu'ils attendaient depuis des années.
Je ne sais pas s'ils l'attendaient. Toujours est-il que, puisqu'ils vont se retrouver pour la première fois dans la situation que les électeurs de gauche ont, eux, connue trois fois, en 2002, en 2017 et en 2022, c'est-à-dire de devoir voter pour la droite alors qu'ils sont de gauche pour faire barrage à l'extrême droite. On va voir ce qu'il en est, on va voir la proportion de ces électeurs de droite qui, pour qui il est inconcevable moralement, politiquement, de voter pour l'extrême droite, et quelle est la proportion de gens qui, comme Alexis Brézet, mais comme aussi, puisqu'il a dit publiquement que c'était une éventualité, mon collègue Alain Finkielkraut, vont se comporter.
Je voudrais justement qu'on en parle d'Alain Finkielkraut. Ça vous a surpris, choqué, puisque vous avez raconté qu'à l'époque de l'affaire Renaud Camus, vous aviez été très choqué d'entendre Alain Finkielkraut, sinon prendre la défense de Renaud Camus, mais en tout cas expliquer qu'il n'y avait pas de problème avec Renaud Camus. Vous êtes surpris ?
Ah non, il avait pris sa défense.
Enfin, il avait pris sa défense, en expliquant qu'il avait rien d'antisémite et que...
Absolument. Ah ben, ça a été vraiment un choc pour moi, un choc. Enfin, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre ce qui avait bien pu se passer dans la tête d'Alain Finkielkraut. Depuis, je crois, compris. En tous les cas, j'ai des hypothèses. Je crois que à l'époque, il commençait tout juste à se dire que le plus important était de faire prendre conscience de l'apparition d'un nouvel antisémitisme en France. Ce nouvel antisémitisme étant, selon lui, émanant, selon lui, des quartiers, étant le fait de jeunes arabes qui, pour des raisons géopolitiques, en fait, tenaient des propos antisémites. Je ne veux pas nier qu'un tel antisémitisme existe, mais ce n'est pas pour autant qu'on a besoin de mettre en place un système de vase communicant, en quelque sorte. Or, c'est précisément ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il avait le sentiment que le fait même de reconnaître que le vieil antisémitisme à la française continuait d'exister permettrait de mieux, par contraste, faire apparaître qu'il y avait un nouvel antisémitisme. Et je pense que c'est ça qui l'a conduit à accepter de défendre quelqu'un qui avait tenu ses propos antisémites. Il faut faire attention, c'était en 2000. Aujourd'hui, on sait très bien qui est Renaud Camus, largement. Il a entre-temps inventé ce concept terrible de grand remplacement, dont on sait qu'il a fait des morts dans des attentats à l'étranger, qu'il a dépassé les frontières de la France, qu'il s'est exporté ce concept et continue de faire beaucoup de mal. À l'époque, Renaud Camus, c'était pas ça. Qu'est-ce qui fait que moi j'ai déclenché cette affaire comme producteur à France Culture? C'est que j'avais lu dans Libération, dans le cahier livre de Libération, un entretien avec Renaud Camus, mené par Stéphane Bouquet, le poète, dans lequel une question de cet entretien préemptait en quelque sorte la défense de Renaud Camus, en lui disant... il faudrait reprendre la question exactement, mais c'était du genre « Vous n'êtes pas antisémite, hein, n'est-ce pas ?» Et en lisant ça, j'avais été interloqué, et c'est ça qui fait que j'étais allé chercher le livre de Renaud Camus, puisque par ailleurs, je n'étais pas un lecteur de Renaud Camus.
Livre dans lequel il déclarait notamment qu'il y avait trop de juifs à la radio.
Il y avait trop de collaborateurs juifs au panorama de France Culture. Et en fait, Renaud Camus jouissait à l'époque d'une reconnaissance, y compris dans la littérature d'avant-garde française, parce qu'il a écrit dans les années 70 un livre qui s'appelle Trix, qui était admiré par certains... écrivains, ce qui n'a jamais été mon cas, mais peu importe. En fait, je dis ça pour qu'on comprenne que repérer cet antisémitisme-là chez Renaud Camus à l'époque, c'était pas forcément une évidence. Et c'est pour ça que ça m'a semblé important de... Alors, en plus, je me sentais requis, puisqu'il se trouve que l'émission qu'il visait était l'émission que j'avais été amené à remplacer quelques mois plus tôt sur l'antenne de France Culture, celle du Midi, qui était une émission qui avait existé pendant 32 ans, le Panorama. Et donc, je me suis retrouvé face à Alain Finkielkraut, qui était producteur sur France Culture comme moi, à devoir débattre. Et je n'ai pas compris. Et je n'ai pas compris sur le moment. J'étais choqué. Et voilà, j'ai fini par comprendre. Et donc, en fait, je peux faire remonter à ce moment-là, pour moi, l'éventualité qu'un jour, il puisse voter pour l'extrême droite, puisqu'il avait bien défendu quelqu'un qui venait non seulement de tenir, mais d'écrire et de publier des propos antisémites dans un livre.
Parce que donc, Alain Finkielkraut vient d'annoncer que s'il le fallait, à contre-cœur, je crois, c'est sa formule, il voterait RN pour faire barrage à l'antisémitisme. Mais ça veut dire qu'il est toujours dans la même logique, c'est-à-dire s'allier, en l'occurrence, au vieil antisémitisme français,
fondé par
pour lutter contre ce qu'il juge être l'antisémitisme venu arabo-musulman, comme la formule à droite et à l'extrême droite est utilisée. C'est ça la logique, c'est de se dire plutôt eux que les autres.
Oui, probablement. C'est-à-dire que je sais pas, il est perdu, je crois. Mais depuis longtemps.
C'est pas le seul. On dit que beaucoup de juifs en France sont tentés par l'extrême droite.
On l'a vu dans des votes, on le voit au Parlement avec les propos de M. Meir Habib, on le voit en Israël avec certains membres du gouvernement. Oui, c'est le cas d'une partie, en tous les cas. Je pense que d'un autre côté, il y a quand même, on le voit, des gens raisonnables et qui envisagent les choses différemment et n'ont pas fait obstacle, fort heureusement, à la constitution d'une union de la gauche, alors même que certains, à l'intérieur de LFI, ont pu tenir des propos antisémites. Il faut le dire aussi, clairement.
– Est-ce que ce n'est pas le plus grand coup de force du RN, d'avoir fait oublier cet antisémitisme-là? Parce qu'on peut rappeler autant qu'on veut, le RN a été cofondé par des collaborationnistes, des Waffen-SS, on a l'impression que ça n'a plus de prise, ça, que ça se perd dans la mémoire.
– Oui, mais parce que soit c'est considéré comme une évidence, donc on ne le rappelle pas, soit effectivement pour des gens plus jeunes, peut-être, tout simplement, on ne le sait pas. Donc je crois qu'il faut continuer à toujours le dire, le marteler, dire ce que c'est que l'extrême droite, dire aussi qu'il existe des pays, l'Allemagne par exemple, dans lesquels ces partis ont été interdits pendant longtemps. Moi je pense pas que ce soit en interdisant des partis politiques. Ça a été un moment un combat d'ailleurs à gauche. Je crois que c'est Charlie Hebdo qui défend cette position pendant longtemps. Moi, je ne pense pas qu'on règle des questions politiques par ce type de mesures juridiques qu'on peut considérer comme antidémocratiques. Je pense que c'est un combat. Justement, un des problèmes du combat contre l'extrême droite, contre le racisme, c'est peut-être qu'on l'a trop judiciarisé, en fait, et pas assez considéré comme un combat politique de tous les jours.
Et peut-être aussi, et peut-être que vous avez deviné où je vous amène, mais qu'on a l'impression que la société est plus belle qu'elle ne l'est. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne voit plus l'antisémitisme, on ne voit plus le racisme, et donc on ne voit plus la menace RN qui pourrait peser sur un pays comme la France. Ou peut-être on a l'impression parfois que tout est rose et...
Ça, je ne sais pas. En tous les cas, le racisme, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à accepter le proxy que propose le RN, qui est l'immigration. Indépendamment par ailleurs de ce qu'on pense de l'immigration. Sur l'immigration, on entend des bêtises tellement énormes le fossé est tellement énorme entre la description de ce qui est et sur laquelle s'accordent tous les gens sérieux qui travaillent depuis des années, et puis la fabrique médiatique de l'immigration. En fait, je prends souvent cet exemple, mais sur l'immigration, c'est exactement ce qui se passait sur le climat il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les médias faisaient encore de la place aux climato-sceptiques. Aujourd'hui, c'est plus possible, fort heureusement. En revanche, on invite encore des gens qui racontent n'importe quoi à propos d'immigration. C'est déjà très grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ce mot est utilisé, comme je le disais tout à l'heure, pour être raciste. Être raciste dans l'espace public. Or, on sait, et là aussi, il faut lire les travaux de chercheurs, je pense notamment au livre récent de Félicien Faury, qui est très intéressant, qui s'appelle « Des électeurs ordinaires ». D'ailleurs, le titre est intéressant, il n'est pas choisi tout à fait par hasard. Il résonne avec « Des hommes ordinaires », un grand livre de Christopher Browning sur les SS. Ce livre montre comment, au fond, c'est le racisme qui est le déterminant principal du vote RN. C'est pas... la précarité économique, le pouvoir d'achat.
La colère.
Non, c'est le racisme. Ce qui ne veut pas dire que les électeurs Front National ont le monopole du racisme. Et même ce qui ne veut pas dire que, en fait, il n'y ait pas des gens encore plus racistes que les électeurs du Front National qui votent pour d'autres partis. Ça veut dire simplement que chez des gens qui ont un certain type de position sociale, certaines caractéristiques sociales, économique, d'emploi, des trajectoires, de niveau de diplôme, etc., eh bien, le racisme qui les traverse comme il traverse toute la société française et chacun des habitants, produit ce geste électoral chez ces personnes-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous oblige à sortir de l'idée qu'il y aurait des gens racistes et des gens pas racistes. En fait, le racisme, c'est pas ça. C'est une relation, c'est toujours interactif, en fait. Et la question, c'est comment on en est conscient et comment on mesure les effets que ça produit et comment on parvient à les neutraliser, en fait. Or, le Front National fait tout le contraire. Il capitalise, en fait, là-dessus. Il cherche à capitaliser, sauf que comme il ne peut pas le faire en étant ouvertement raciste, eh bien, un certain nombre de gens en viennent à conclure que, eh bien non, le Front National n'est pas raciste puisqu'il ne tient pas de discours raciste. Mais le racisme, ça passe pas par les discours. Ça passe par bien d'autres choses.
Alors, sur cette question du racisme, très précisément, c'est là que je voulais vous amener. Vous avez eu un débat intéressant sur le plateau de C'est ce soir avec Anne Rosenchet, qui est directrice déléguée des rédactions de L'Express. Je voudrais qu'on regarde un extrait et qu'on en discute juste après.
Juste le racisme systémique en France, non.
Tous les jours,
non,
tous les jours.
Je ne nie pas qu'il y a du racisme,
tous les jours.
Qu'il y a des discriminations. Je ne nie pas qu'en plus, il puisse y avoir, compte tenu de l'état du pays, une hausse de la xénophobie. Mais en revanche, la France n'est pas, je ne pense pas, un pays raciste systémique. Ne serait-ce que parce qu'elle a inventé, la citoyenneté, la fraternité républicaine, le fait...
Donc elle est immunisée, comme elle était immunisée face au fascisme.
Je l'ai lu, mais arrêtez. C'est difamer la France, c'est difamer son
pays. Mais la France, c'est quoi
ce qu'on a inventé, de ce dont on a hérité.
On a réglé tous les problèmes en 1789.
J'ai pas dit qu'on les avait tous réglés.
On est un pays universel.
Mais je vous dis que moi, je n'adhère pas à ce discours du racisme systémique en France. C'est tout, j'ai le droit de vous dire.
Mais venez faire l'expérience. Venez faire l'expérience avec moi. Je peux vous assurer que je fais cette expérience au quotidien.
Du racisme systémique.
Oui,
vous.
Absolument. Oui, moi.
Vous êtes raciste.
Mes enfants sont noirs.
Ses enfants le sont.
Je fais l'expérience comme père d'élève.
Je la fais au quotidien.
Écoutez, moi, je peux aussi éventuellement parler de racisme. Le racisme qui touche le plus de Français en France, c'est le racisme anti-juif, puisque c'est là où il y a le plus d'agressions, et je ne dirai jamais.
On va pas rentrer
jamais,
dans ce jeu de
non,
concurrence.
Mais je ne dirai jamais que la France est jeux, antisémite.
Je vous renvoie aux enquêtes de la CNCDH menées par Nona Maier et Vincent Tibéri. Il y a des données très intéressantes sur le racisme comme opinion, mais c'est pas avec des sondages d'opinion qu'on mesure le racisme systémique. Mais c'est en regardant des relations sociales. Le racisme, c'est pas une opinion. C'est une relation sociale.
Bien sûr que non, c'est pas une opinion, mais nous ne sommes pas d'accord sur l'audit de.
Elle est intéressante cette discussion à beaucoup d'égards. D'abord sur le surgissement de la question personnelle dans le débat, parce que on a l'impression que finalement c'est pour tous les deux d'ailleurs, c'est l'argument auquel vous recourez pour essayer de. Pas d'assommer la discussion, mais en tout cas de dire, bon, écoutez, soyons sérieux deux minutes. C'est-à-dire que vous dites, bon, mes enfants sont noirs. Et Anne Rosenchet a dit, mais moi, je suis juive et je connais l'antisémitisme. Et pour moi, l'antisémitisme, c'est la plus grande menace, la plus grande discrimination, etc. Est-ce qu'il faut en arriver là, aujourd'hui, pour se mettre d'accord sur un constat aussi simple qu'il y a du racisme en France et ça existe, quoi.
Et il y a de l'antisémitisme.
Et il y a de l'antisémitisme, évidemment.
J'aurais préféré ne pas avoir... À faire part de mon expérience personnelle, mais en même temps, cette expérience, elle est précieuse. Elle est parfois... elle me met très en colère, parfois. Enfin, souvent, même. Mais elle est extraordinairement précieuse, parce que j'aurais jamais pu la faire si mes enfants avaient la même couleur de peau que la mienne. Or, depuis qu'ils sont tout petits, j'ai été dans des tas de situations sociales qui m'ont fait voir des choses que je n'avais jamais vues avant. Christine Angot a écrit de très belles choses là-dessus aussi. Son compagnon est noir et elle a écrit de très très belles choses parce que au fond on ne devient pas soi-même racisé, mais on est tellement proche de certaines interactions qu'on voit le mécanisme de la racisation. C'est ça que je veux dire quand je dis que le racisme c'est une relation sociale. On peut pas savoir si quelqu'un est raciste en lui faisant une prise de sang. C'est pas une substance, c'est un regard, c'est des mots, c'est un échange qui fait que vous êtes racisé. C'est-à-dire que c'est un processus de racisation. Alors parfois, il y a un mauvais usage de ce concept qui est précieux, hein, qui permet de comprendre beaucoup de choses. Quand on transforme le qualificatif en un substantif, c'est-à-dire que racisé devenant un statut. En fait, ce n'est pas un statut, parce que si on considère qu'être racisé, c'est un statut, on perd l'essentiel du concept qui consiste à montrer que c'est un processus, que c'est une relation. Pour être racisé, il faut être racisé par quelqu'un ou par quelque chose, une institution. Et donc c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer pour faire en sorte que des gens comprennent ce que ça veut dire racisme systémique. Parce que visiblement, Anne Renchère ne sait pas ce que ça veut dire racisme systémique. Elle doit croire que c'est la même chose probablement que soit racisme systématique, soit racisme institutionnel. En général, les gens à qui vous parlez de racisme systémique vous disent on n'est quand même pas dans un régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il n'y a pas des lois racistes en France comme il y en a eu à certaines époques aux États-Unis d'Amérique, etc. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ça que veut mettre en évidence le concept de racisme systémique. C'est précisément ce que j'expliquais en montrant ce que veut dire le processus de racisation. Ce racisme systémique n'est pas, la plupart du temps, intentionnel, en fait. Les gens qui sont amenés à se comporter de manière raciste ne se rendent même pas compte. Ça vaut pour l'antisémitisme. C'est exactement les mêmes mécanismes. En revanche, je crois que les effets et les conséquences sur la vie des gens qui habitent dans ce pays ne sont pas les mêmes, ne prennent pas les mêmes formes. Il y a quelque chose d'abominable avec l'antisémitisme. Et encore une fois, j'ai su le reconnaître quand il s'agissait de Renaud Camus, et je sais le reconnaître quand j'entends des gens à l'intérieur de la France insoumise tenir des propos antisémites. Je crois que je sais les qualifier. En revanche, je ne crois pas que... parce qu'on est juif en France aujourd'hui, on a des difficultés pour trouver un logement, par exemple. C'est le cas des personnes dont la peau est noire, très souvent. Voilà, je ne prendrai que cet exemple-là, et ce n'est pas pour faire une mise en concurrence des victimes. En fait, les racismes et les antisémitismes différents produisent des effets qui ne sont pas comparables, ni en qualité, si j'ose dire, ni en nombre. Au plan des principes, il faut tous les combattre de la même manière. Simplement, au plan pratique, il faut aussi trouver la manière de les combattre. Il ne suffit pas d'énoncer des principes. Et c'est là mon deuxième désaccord avec Anne Rosenchère, c'est qu'elle est une représentante typique de cette philosophie républicaine française qui a pu donner lieu, dans des versions caricaturales, à ce qui s'est appelé le printemps républicain en France. Mais qu'en fait, un discours qu'on entend, qui est partagé bien au-delà de ces positions caricaturales par beaucoup de gens, qui est l'idée que, au fond, parce qu'on aurait inventé, alors soit dit en passant, c'est bourré d'erreurs historiques, les droits de l'homme, la laïcité, par exemple. En fait, la laïcité, elle a été inventée aux États-Unis avant la France, par exemple. Ces gens, en général, ne savent pas que les Anglais ont coupé la tête de leur roi un siècle avant les Français, ou que les Américains ont fait la Révolution quelques années avant les Français. Bon. Bref, dans ce récit mythique et mythologique de la France comme grand pays des droits de l'homme, en fait, on aurait réglé tous les problèmes parce qu'on les aurait réglés au plan des principes. Je suis moi-même extrêmement attaché à la Déclaration universelle des droits de l'homme, que je préférerais qu'on appelle droit humain aujourd'hui, et évidemment à toutes ces grandes lois de la Troisième République, ces principes. Mais enfin, si on y est vraiment attaché, alors ce qui compte, c'est pas de les seriner, de faire en sorte que les élèves les apprennent par cœur, etc. C'est d'être capable d'évaluer leur mise en œuvre, de voir ce qu'il en est effectivement de leur application, et le cas échéant, de trouver des modalités pour faire en sorte qu'ils soient mieux mis en œuvre. C'est-à-dire que ne pas regarder juste en amont les principes, mais regarder en aval ce qu'il en est de leur effet sur les discriminations, sur les inégalités dans la société française, par exemple.
Est-ce que vous ne raisonnez pas face à une forme d'irrationalité? Quand Anne Rosenchère dit « vous diffamez la France », on n'est plus dans quelque chose.
Même
on n'est plus dans quelque chose de rationnel.
C'est pour ça que je dis la France, c'est quoi? Parce que je ne comprends pas comment on peut diffamer la France. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je vis dans une société. Je sais pas ce que ça veut dire diffamer la France, en fait.
Alors, je voudrais qu'on revienne à l'union de la gauche, parce que quand même, on a parlé beaucoup de la droite et de l'extrême droite. On va voir comment elle a été reçue, cette union de la gauche, à la première annonce que les partis s'étaient mis d'accord pour se mettre d'accord. Et sur les plateaux des chaînes d'infos, c'est pas très bien passé.
Les amis, je suis obligé de vous interrompre.
La NUPES n'est pas morte, elle renaît sous un logo que chacun jugera opportun ou pas, Front Populaire. Au voilà, on doute de rien du côté de la gauche.
Pour moi, c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise. Parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches.
Non, il ne s'est rien passé le 7 octobre. Non, depuis le 7 octobre, LFI n'est pas sorti, ne s'est pas mis du mauvais côté de l'histoire. Et non, il n'y a aucune raison pour que les socialistes, les communistes et les verts ne s'allient au parti de Jean-Luc Mélenchon.
C'est très choquant qu'un certain nombre de gens au parti socialiste, chez les écologistes, chez les communistes, considèrent que ça n'est pas un problème.
Déjà, on a l'impression qu'Olivier Faure a l'alliance, l'accord un peu honteux quand même, parce qu'il n'assume pas le terme NUPES, donc on dit Front Populaire, c'est Front Populaire. Scandaleux si vous voulez, c'est vraiment galvaudé ce Front Populaire.
Je suis assez choquée que vous ayez évacué comme ça d'un revers de main ce problème de l'antisémitisme. Oui. Oser appeler du nom du Front Populaire de Léon Blum un mouvement, un rassemblement avec des antisémites.
Et quand Jean-Luc Mélenchon dit « il faut un accord vite, fort, etc. etc. », dans le programme, il dit « il nous faudra gouverner pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, si vous voulez ».
Exceptionnel.
Donc franchement, il ne recule devant rien.
On est en train de se diriger vers un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est ça le sujet. Il est là le sujet. Mais arrêtez de rêver.
Cette réaction, comment on l'interprète? Parce que certains disent, bon, il y a peut-être des électeurs sincères qui se disent, ah, les filles quand même, ça fait peur, Jean-Luc Mélenchon, ça fait peur. Et il y en a qui disent, oui, en fait, c'est une petite panique, parce qu'ils se rendent compte que le duel Macron-Le Pen, a priori, n'aura pas lieu pendant ces législatives, et que personne ne s'attendait à ce que la gauche arrive si vite à se mettre d'accord autour d'un programme.
Alors, je pense qu'il y a parmi eux des gens qui ne comprennent pas, et des gens qui ne veulent pas comprendre. Avec toutes les nuances entre les deux. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que, en fait, ce qui est en train de se passer depuis dimanche soir, et depuis que les partis de gauche se sont mis autour d'une table pour produire très vite le principe d'un accord, d'abord, puis cet accord, puis des investitures pour les 577 candidats ensuite, c'est précisément, en fait, pour régler cette question de la chape de plomb que Jean-Luc Mélenchon a fait peser sur la gauche depuis tant d'années et qui a rendu impossible cette union. Et si ça a été possible, c'est parce qu'un certain nombre de gens dans tous ces partis se parlent depuis des mois et ont décidé de trouver une solution pour régler ce problème. Comment on fait pour ne pas être plombé par ce poids de Jean-Luc Mélenchon, qu'il aurait sans cesse renvoyé à la figure, on l'a bien vu, par les médias.
Poids fédérateur en même temps, parce que
ben non,
la figure de Jean-Luc Mélenchon peut attirer aussi beaucoup de monde au vote.
Poids extraordinairement clivant, en fait. Poids extraordinairement clivant. On sait bien que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle était composé en très grande partie de gens qui se sont résolus à un vote utile. C'est le principe même de cette élection. Ce qui explique les scores calamiteux d'autres candidats de gauche, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dès ce moment-là, il y avait une aspiration très grande, en fait, à l'union, y compris pour des gens qui sont allés à reculons voter pour Jean-Luc Mélenchon, parce que, bon, il fallait quand même donner une chance à un candidat de gauche d'accéder au second tour de l'élection, puisque là encore, on était déjà dans ce schéma à trois, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en fait. Donc je pense que. C'est pas que je pense, c'est que je sais que des dirigeants de ces partis politiques, et notamment des minoritaires à la France insoumise, ou des dissidents, des contestataires, des gens qui n'adressent plus, auxquels Jean-Luc Mélenchon n'adresse plus la parole depuis un an et demi, en fait. Enfin, je veux dire, faut prendre la mesure de ça, c'est pas tellement raconté dans les journaux. Des gens qui ont été mis au banc par la direction de LFI, et puis d'autres qui sont dans des positions un peu intermédiaires, parce qu'on a vu que Manuel Bompard, ensuite, a été associé à ces discussions. Il fallait qu'il le soit en tant que responsable de ce parti. Ces gens ont travaillé à construire, et c'est ça qui est en train d'advenir, en fait, la gauche d'après Jean-Luc Mélenchon. La gauche qui est capable de se réunir. Et si elle est capable de se réunir, c'est précisément parce qu'elle décide de ne pas se poser la question de l'incarnation. Elle est capable de sortir de cette broyeuse qui est la Ve République, qui veut un nom, parce qu'elle veut un président qui écrase tout.
Est-ce que c'est tenable, ça, pendant 3 semaines ?
Ben là, c'est la grande chance, en fait.
Parce qu'ils n'ont plus le choix, maintenant.
C'est la grande chance de la gauche. Il y a une double chance. C'est la première fois qu'on a une élection législative de ce type, qui peut mener à une véritable logique parlementaire, encore plus parlementaire que dans les cohabitations classiques qu'on a eues. Et l'autre aspect, ou l'autre chance, c'est la rapidité avec laquelle cet accord a dû être trouvé. Et ça, c'est Emmanuel Macron qui l'a imposé comme ça. Je pense que les choses auraient été plus compliquées s'il y avait eu plus de temps. Mais ce que n'a pas mesuré Emmanuel Macron en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est à quel point la gauche, qu'il avait méthodiquement détruite en 2017, avait commencé de se reconstruire collectivement, dans des dialogues entre les Verts, le Parti socialiste, la France insoumise, le Parti communiste, et puis aussi la société civile, beaucoup d'ONG, beaucoup des syndicats. Les gens, ça fait des mois qu'ils se parlent, en fait. Ça fait des mois qu'il y a des économistes qui travaillent sur un programme interparti. Hein.
C'est-à-dire quoi concrètement, ils se préparaient à l'éventualité d'une dissolution ?
Non, ils travaillaient dans la perspective de l'élection présidentielle, dans 3 ans, en se disant à la fois, on a un peu de temps, et en même temps, ça va venir vite. Donc, ne perdons pas une seconde, commençons à nous préparer. Évidemment, Emmanuel Macron est venu chambouler totalement ce calendrier. Mais je fais le pari que, d'une certaine manière, c'est une chance. C'est-à-dire que peut-être que le fait d'avoir dû faire durer ce moment aurait pu provoquer des crises, des tensions. On l'a vu là, ne serait-ce que quelques jours, et un certain nombre de journaux ont cherché à jeter de l'huile sur le feu en essayant de faire la chronique en live de négociations qui étaient par définition secrètes et qui devaient absolument le rester si elles voulaient aboutir. Donc par là même en essayant de les torpiller. Donc je pense que si ces négociations avaient duré 3 mois, elles avaient moins de chances d'aboutir qu'en durant 3 heures, en fait.
Cela dit, les journalistes ne sont pas tenus au secret des négociations politiques.
Non, c'est leur travail d'essayer de rendre compte de l'avancée de tout ça. Mais on voit bien comment ils peuvent être soit instrumentalisés comme journalistes, soit eux-mêmes utiliser certaines informations pour tenter... il n'y a pas d'un côté la politique et de l'autre les journalistes politiques qui observent. Tout le monde fait de la politique. Les journalistes politiques font de la politique, comme les responsables politiques.
Je voudrais qu'on termine avec ceux que j'ai mentionnés, eux aussi, en introduction, mais dont on a moins parlé parce que leur position est beaucoup plus claire, c'est CNews et C8. Et je voudrais qu'on regarde un extrait qui nous a... pour être honnête, laissé sans voix hier soir sur le plateau de TPMP. Sarah Knafo, donc bras droit et compagne d'Éric Zemmour, est invitée sur le plateau et elle propose en direct d'appeler Jordan Bardella.
Sarah Knafo, vous avez fait quoi ? Vous voulez rappeler Jordan Bardella ici ?
Bah appelez-le.
Non, mais vous avez pas votre téléphone ?
Bah non, moi j'ai pas mon téléphone, mais appelez-le.
Vous voulez appeler Jordan Bardella, sans rigoler ?
Allons-y,
vous voulez quoi ? Vous voulez lui parler ?
Moi j'ai un truc à dire. Je me dis, voilà, aujourd'hui on dit...
C'est énorme, si vous le faites ici, bah voilà, j'appelle Jordan Bardella, on va voir. J'appelle Jordan Bardella, bah voilà, on appelle Jordan Bardella, si vous voulez que je vous dise.
Il y a une chance qu'il réponde.
Sarah, vous pouvez lui laisser un message ?
Bah le message à laisser.
Attends.
J'attends la messagerie.
Attendez.
On attend la messagerie.
Cette séquence est...
Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Donc je dis, Jordan, on se connaît depuis qu'on a 17 ans. On s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Tous les deux, on vient de Seine-Saint-Denis. Tous les deux, on a des parents issus de l'immigration qui sont arrivés en France. Je pense qu'on a des différences. On ne fait pas partie du même parti. Nos différences, on les gardera. Mais là, on a une chance unique. Il y a une coalition qui est possible. On peut sauver nos idées. Nous, on pèse que 5,5%. C'est modeste. Les LR pèsent 7%. Mais ensemble, on peut changer les choses. La différence entre 45 et 50%, ça s'appelle la majorité. Les 5%, ils peuvent changer les choses. Les Français, ils la voient, la différence. On verra la différence.
Vous êtes en train de bouffer mon forfait, là.
C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Les Français verront la différence. Donc je dis oui, il y a eu des critiques, il y a eu des attaques de part et d'autre, mais je pense qu'on peut passer à côté. Ciotti, avec son parti, ils ont attaqué le RN pendant des années.
Justement, on va le
recevoir. Ils les ont traités de nazis, ils les ont traités d'incapables, etc. Le parti LR, je dis pas Éric Ciotti.
On peut lui dire au revoir, là, maintenant.
Donc Jordan, la main est tendue, je vais raccrocher. La main est tendue, on y est prêt jusqu'à dimanche minuit, tout est possible.
On a beaucoup chroniqué ici même l'ascension des médias Bolloré. Là, depuis une semaine, on a un basculement qui est clair, c'est-à-dire qu'ils font campagne officiellement maintenant pour le RN. Il n'y a plus de faux-semblants, il n'y a plus de semblants de neutralité. Est-ce qu'on ne sous-estime pas ça aussi? En cas de prise de pouvoir du RN, imaginons un Premier ministre RN, Jordan Bardella, la puissance de frappe médiatique dont dispose déjà le RN dans ses mains, couplée avec un projet de privatisation du service public qui semble être dans les cartons par ailleurs.
Évidemment, c'est très très inquiétant. Mais j'aurais envie d'insister sur quelque chose qui s'est déjà produit, en fait, qui est déjà à l'œuvre, qui menace de s'accentuer et qui ne tient pas uniquement à qui est propriétaire. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il y a de grave avec ce type de séquence, ce type de manière de parler de la politique, de la mettre en scène dans des formats d'émissions télé qui sont empruntés à des formats d'émissions télé qui traitaient d'autres choses que de politique il y a déjà bien longtemps, c'est que ça diffuse dans l'ensemble des médias. À mon sens, on ne peut comprendre la séquence qui a vu l'irruption de Gabriel Attal sur un plateau de France Info que par ce type de choses chez Hanouna.
C'est-à-dire que Valérie Ayé était interrogée sur France Info, Gabriel Attal n'était pas du tout prévu au programme et il a débarqué sur le plateau à l'improviste avec un micro dans la main.
Voilà. Je pense que on serait tenté de dire « Ah, regardez, c'est déjà l'ORTF, l'État s'invite dans les médias publics, etc. » Non, je ne pense pas que ce soit ça la bonne analyse. La bonne analyse, c'est l'influence de formats télévisuels de la télévision façon Hanouna sur l'ensemble des médias. C'est-à-dire, comment ne s'est-il pas trouvé des journalistes pour dire stop, c'est pas parce qu'il est Premier ministre, il peut pas faire irruption comme ça, de la même façon qu'on va pas appeler au téléphone un chef de parti dans une émission. Mais enfin, c'est un problème de faire tenir les institutions, en fait. Mais très concrètement, dans des conduites quotidiennes, on a vu le même problème avec une autre irruption de Gabriel Attal au conseil d'administration de Sciences Po, par exemple. Comment se fait-il que les gens autour de la table ne l'aient pas quitté en disant « c'est illégal, vous n'avez pas le droit de vous inviter là, il y a des procédures, il y a des règles ». Donc je pense qu'il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants, en fait. Ces types de formats télévisuels sont en train de miner les institutions démocratiques, si on n'y prend pas garde. Et pas seulement dans les médias qui appartiennent à des milliardaires d'extrême droite, mais dans l'ensemble des médias.
Merci beaucoup, Sylvain Bourmot. On a évoqué beaucoup de sujets. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve très vite sur le plateau d'Arrêt sur Image. À bientôt.